Bonjour à tous. Nous allons continuer sur les mots. J'ai intitulé la méditation que je voudrais partager avec vous ce matin. Comment parle-t-on de la religion aujourd'hui ? Des mots et leur sens. Oui, ce matin, je voudrais m'arrêter sur des mots employés aujourd'hui pour parler de certains aspects de la religion, en prenant un peu de recul, en considérant un peu l'histoire et bien sûr l'écriture. Le premier mot, c'est le mot fondamentalisme. Ce mot désigne d'abord un courant conservateur protestant apparu aux États-Unis dans les années 20. Il naît de l'opposition aux thèses du libéralisme théologique par l'affirmation des points jugés essentiels pour la foi chrétienne. Ainsi, entre 1910 et 1915, paraissent sous la plume d'éminents théologiens des États-Unis et d'Europe 12 fascicules sous le titre « Les fondamentaux, un témoignage à la vérité ». Ces points essentiels étaient la naissance virginale de Jésus-Christ, sa mort expiatoire, sa résurrection corporelle, sa divinité et ce qu'on appelle, d'un mot technique, l'inhérence de l'Écriture, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas d'erreur dans la Bible. Par la suite, d'autres éléments et d'autres options moins directement théologiques sont venus s'ajouter au courant fondamentaliste, comme la lutte contre l'œcuménisme et le Conseil œcuménique des Églises, contre le catholicisme, contre l'avortement et d'autres options, y compris des options politiques. Le dictionnaire dit de l'emploi du mot fondamentalisme aujourd'hui « courant religieux, conservateur et intégriste ». Intégriste, donc, intégrisme, deuxième mot. Ce terme s'est répandu en France à partir des années 1910 pour désigner ceux qui refusaient radicalement tout modernisme catholique. Après le Concile Vatican II, l'intégrisme proclame son attachement à la tradition, notamment au catéchisme du Concile de Trente et à la messe selon ce qu'on appelle le rite de Saint Pie V. C'est Mgr Lefebvre qui a été le chef de file des intégristes catholiques dans les années 1970. Mgr Lefebvre a été excommunié par l'Église catholique en 1988. Je cite ici Jean Boubérot. Les médias utilisent souvent le terme intégriste pour désigner tous les radicalismes religieux et notamment le fondamentalisme protestant. C'est confondre une défense de l'infaillibilité d'une tradition, maintien de l'intégrité et de l'intégralité d'un système et d'une institution ecclésiastique, ça c'est le catholicisme, ça c'est d'une part, et de l'autre part, la doctrine de l'inhérence et de l'autorité de la Bible. Confusion entre les deux. Vous avez certainement remarqué, rien qu'en abordant ces deux termes, l'étonnante convergence de dates au moment où, d'un côté, on a affirmé, du côté protestant, des éléments fondamentaux de la foi, et de l'autre côté, à peu près à la même époque, on a affirmé, du côté catholique, le fait que la tradition doit être maintenue intégralement et l'organisation aussi. Le dictionnaire dit de l'emploi du mot « intégrisme » aujourd'hui « attitude de croyant qui refuse toute évolution ». Et on lui associe les mots de « fondamentalisme » et de « traditionnalisme ». On ajoute qu'un intégriste, c'est une personne qui manifeste une intransigeance et un conservatisme excessif. On vient d'employer un autre mot, ou plutôt une autre expression, les radicalismes religieux. radicalisme. Au départ, nous voudrions rappeler que nous avons en France des partis politiques dits radicaux, de plusieurs nuances. Le premier à porter ce nom se constitue en 1901. Le mot radicalisme vient du mot racine. Le radicalisme, c'est ce qui tient à ce qui est essentiel, au principe, au fondement. Un parti se dit radical parce qu'il est pour des réformes radicales. Vous voyez le chemin parcouru par ce terme aujourd'hui. En fait, la radicalisation peut se manifester dans tout système de pensée, dans toute religion, dans toute idéologie, dans toute vision ou explication du monde. Dans cette ligne, il serait plus juste, à mon avis, de parler de fanatisme. Ajoutons encore deux termes que j'ai entendu employer pour parler du danger de certains groupes religieux. Ils parlent des groupes ou des courants millénaristes et eschatologiques. Employer ces termes dans ce contexte prouve l'inculture de ceux qui les emploient. Millénarisme, c'est simplement quelqu'un, le millénariste, c'est quelqu'un qui attend un âge d'or où le Christ régnera pendant 1000 ans sur la terre. Nous en avons entendu parler il y a peu de temps. L'eschatologie, c'est simplement un terme théologique qui signifie l'étude des fins dernières de l'homme et du monde. En quoi, je vous le demande, sur la base de ces définitions, ces deux termes présentent-ils un danger ? En rien, si ce n'est le système de pensée et le comportement induit qui peut se rattacher à ces deux termes. Et je vais tout de suite donner un exemple pour ne pas être trop compliqué. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul décrit certains chrétiens dans l'Église qui, dit-il, marchent d'une manière désordonnée, vivent d'une manière désordonnée. Pourquoi ? Parce que dans leur conception de l'eschatologie, de ce qui va arriver, ils sont tellement persuadés que Jésus-Christ va revenir tout de suite qu'ils ont déduit que ce n'est pas la peine de travailler. Et donc, ils se sont mis à ne rien faire. Et le texte dit ils sont occupés à ne rien faire, affairés à ne rien faire. Ceux qui vivent ainsi vivent, dit l'apôtre Paul, d'une manière désordonnée, parce qu'ils pensent que le retour du Seigneur est imminent. Donc ce n'est pas l'eschatologie ou le fait d'étudier les fins dernières qui est dangereuse, qui pose un problème. C'est tout ce qui s'y rattache et tout ce qu'on y rattache. Revenons au fondamentalisme, parce que je parlerai un peu plus de ce terme. Et là encore, je cite un autre éminent spécialiste protestant, Jean-Paul Vième. Le fondamentalisme protestant se manifeste comme un mouvement de réassurance doctrinale. J'ai trouvé une belle expression. De réassurance doctrinale et éthique, morale, dans les périodes de forts changements sociaux et culturels, un mouvement qui met en jeu un certain type de rapport au texte biblique, inspiration et autorité des Écritures. Il ne faut pas identifier le fondamentalisme au protestantisme évangélique. Il ne faut pas assimiler les deux termes. Il ne faut pas les identifier. Le protestantisme évangélique, dont nous sommes, présente de multiples visages, mais il n'est pas forcément fondamentaliste au sens historique du terme. Mais il est vrai que des positions fondamentalistes sont beaucoup plus fréquentes dans les églises évangéliques que dans les églises luthériennes ou réformées. Fin de la citation de Jean-Paul Vième. Que dit l'Écriture ? Peut-être que vous vous dites, enfin quand même, il n'a même pas lu la Bible avant de commencer son discours, c'est Albert. Attention, hein ? Que dit l'Écriture ? Elle parle bien sûr du fondement. Image de l'édifice, de la construction, du temple. C'est un terme effectivement très important. Dans l'Ancien Testament, au psaume 11, lorsque les fondements sont ébranlés, l'homme droit, que fera-t-il ? L'Éternel est dans son saint temple. Rien que le fait d'avoir accolé cette réponse à la question me paraît extrêmement importante. Que fera le juste ? Nous dirions, eh bien, il fera ceci ou il fera cela. Que fera le juste quand les fondements sont ébranlés ? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. De ses yeux, il observe. Il sonde les humains. Il est un Dieu juste. Les hommes droits verront sa face. Dans le livre des Proverbes, le juste est établi sur le fondement éternel. Au Nouveau Testament, dans la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre que celui qui est en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Dans la lettre aux Éphésiens, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Toujours dans la lettre aux Éphésiens. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Dans la lettre aux Colossiens, marchez en Christ, dit toujours l'apôtre Paul, étant enracinés et fondés en lui. Expression forte et étonnante à la fois, parce qu'il y a ici comme un choc des images. Marchez en Christ étant enracinés. Vous avez vu des arbres qui marchent, vous ? Non, ils ne marchent pas, mais ils grandissent, ils bougent. Marchez en Christ étant enracinés et fondés en lui. Et ici, nous voyons un autre élément qui vient s'ajouter à tout ce qui est souligné par l'idée de fondement, à savoir la solidité de l'ancrage. C'est l'autre aspect essentiel, la dynamique de la marche. Une citation un peu surprenante sur la question du fondement. Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons ceci. Laissons l'enseignement élémentaire sur le Christ pour nous élever à une perfection d'adulte sans revenir sur les fondements, à savoir repentir des œuvres mortes et foi en Dieu, doctrine des baptêmes et imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Ouh là là ! Je vous dis tout de suite, je ne vais pas commenter ce texte. Juste en tirer deux choses. Vous avez remarqué que l'énumération de ce qui est fondement dans ce contexte-là n'est pas tout à fait celle que nous aurions choisie. Nous serions plus près de ce que nous avons dit au début. Mais je voudrais souligner une convergence entre l'état des Corinthiens et l'état des chrétiens auxquels s'adresse l'auteur de la lettre aux Hébreux. Parce que dans les deux cas, il est question des chrétiens qui devraient, à cause de tout le chemin parcouru avec Jésus, être des adultes dans le Christ, des gens solides, des gens intelligents, des gens qui savent ce qu'ils croient, et dans les deux cas. L'apôtre Paul chez les Corinthiens et l'auteur de la lettre aux Hébreux à ceux auxquels il s'adresse, il leur dit « Vous devriez être des adultes et vous êtes encore des enfants. » L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe « Vous devriez être des chrétiens adultes, c'est-à-dire spirituels, et vous êtes encore charnels, parce que vous dites « Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de... » Et celui de la lettre aux Hébreux dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous devriez être beaucoup plus avancés dans le Christ. » Donc, je tire simplement de cette observation qu'il ne suffit pas de parler des fondements, qu'il faut aussi poser ces fondements dans les circonstances où se trouvent les gens auxquels on s'adresse, et qu'il faut nécessairement y ajouter le côté dynamique et vivant de la marche du chrétien. Pour les chrétiens qui sont ainsi restés dans les premiers pas, dans les éléments de base dont il est dit, il faut les dépasser, même aller au-delà de ces fondements. Il ne faut pas les poser toujours à nouveau. Ces fondements se sont figés, se sont sclérosés, fossilisés. Marchez, dit l'apôtre. Donc, si je comprends bien le texte biblique, la notion biblique de fondement est tout sauf un enfermement doctrinal. Fondé dans l'amour du Christ, fondé dans le Christ. Pour éclairer encore ce propos, je voudrais parler de l'attitude de Jésus à l'égard du traditionnalisme des pharisiens. Jésus, vous savez, dans bien des passages, condamne le traditionnalisme des pharisiens. En particulier dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 15. Les pharisiens s'adressent à Jésus et lui disent « Pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains avant le repas ?» Selon la tradition des anciens. Et Jésus leur répond « Et vous, pourquoi anéantissez-vous la parole de Dieu à partir de la tradition des anciens ?» Jésus leur démontre de façon irréfutable que ce que les pharisiens appellent la tradition des anciens et qu'ils croient être le sommet de leur religion, en réalité, c'est une religion complètement déviée qui est devenue une série de prescriptions humaines, il leur dit. Il leur dit « Vous annulez la parole de Dieu au nom de votre tradition. » Cette critique de Jésus à l'égard de la tradition des Juifs, sa condamnation, vient du fait que non seulement ces Juifs ont ajouté de nombreuses prescriptions à la loi de Dieu, contraignantes, mais surtout déterminantes, mais ils ont imposé ces éléments comme étant la vraie religion. La vraie religion, ce n'est plus la foi en Dieu et le cœur tout entier à l'Éternel, c'est l'observance rigoureuse de toutes ces prescriptions les unes après les autres. La tradition des Juifs est devenue une coquille vide et même un carcan qu'ils imposent sur les autres. D'ailleurs, Jésus leur dit « Vous mettez des fardeaux sur les épaules des autres et vous ne voulez pas les remuer du petit doigt. » La loi de Dieu est remplacée par la loi humaine. Voilà pourquoi cette tradition des Juifs est condamnée par Jésus. L'apôtre Paul lui-même, qui dans la première partie de sa vie était un zélé pour le judaïsme, porte après sur cette période de sa vie le regard suivant. « J'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Double problème. Ce n'était pas la loi de Dieu, c'était les traditions des pères qu'il avait figées. Et ensuite, en plus, il était animé d'un zèle excessif pour la tradition de ses pères. Voilà quelques éléments qui nous permettent de porter un regard plus large sur cette notion si importante du fondement. Étant enraciné et fondé dans l'amour et dans le Christ, marchons. C'est ainsi que cette notion de fondement se conjugue avec la notion de vie, de progrès, de mouvement, progrès dans la foi et l'amour. Dans la lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul loue ses frères de cette église. Votre foi fait de grands progrès et l'amour que vous avez les uns pour les autres s'accroît en chacun de vous. C'est ainsi aussi que cette notion de fondement se conjugue avec une autre notion qui lui est très voisine et qui se conjugue avec, c'est le fait que dans la communauté chrétienne, il y a une diversité des stades auxquels la foi s'est implantée en chacun, le cheminement de chacun est différent de celui de l'autre, et donc, lorsque on considère la communauté et qu'on doit faire attention à ce qui est essentiel, il faut aussi qu'on regarde qu'il y a, sur certains sujets, des opinions différentes. Alors, je lis juste quelques versets que vous connaissez bien dans le début de la lettre, du chapitre 14 de la lettre aux Romains. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans critiquer ses scrupules ou ses opinions. La foi de l'un lui permet de manger de tout, tandis que l'autre, par faiblesse, ne mange que des légumes. N'en déduisez pas de ce que je viens de lire que tous les végétariens sont faibles. Hein. C'est le contexte de ce texte. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Voilà deux types d'approches, deux regards, et l'apôtre Paul sait très bien que dans ces deux regards, il peut y avoir, chez l'un et chez l'autre, des tentations symétriques, jugement d'un côté, mépris de l'autre. Qui es-tu, toi, pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas, qu'il tienne bon ou qu'il tombe? Cela regarde son maître. Et il tiendra bon, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. Ni jugement, ni mépris, mais communion dans le Christ. Je voudrais aborder la dernière partie de mon propos de ce matin. Paul déclare, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Il transmet ce qu'il a reçu de Jésus-Christ. La transmission, c'est exactement le premier sens du mot « tradition ». La tradition, c'est la transmission de ce qu'on a reçu et qu'on enseigne aux autres. C'est ce que les parents enseignent aux enfants. Et c'est ce que Paul enseigne dans les églises. Jésus a instauré, donc, la nouvelle tradition. Par ses paroles et par ses actes, il a fourni la nouvelle base d'interprétation des Écritures. La tradition apostolique, c'est l'enseignement des apôtres transmis par Jésus-Christ et par eux à ceux qui les suivent. Cette tradition consiste d'abord à garder fidèlement le bon dépôt, ce que l'apôtre Paul appelle le bon dépôt en écrivant à son disciple Timothée. Garde le bon dépôt. Cette tradition consiste ensuite à appliquer les principes initiaux fondamentaux inchangeables dans des contextes différents, changeants, nouveaux, donc à s'adapter par l'action vivante du Saint-Esprit. Des changements sont visibles de toute évidence déjà au sein même de l'Ancien Testament, suivant la période et le contexte, puis entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Ce n'est pas la peine que je développe le vin nouveau dans les vieilles outres ou la pièce de drap neuf sur un vêtement usagé. La tradition est et ne doit être que la servante de la révélation. La tradition comporte des éléments importants et des éléments moins importants, contingents, circonstanciels. Il faut donc remettre périodiquement la tradition et les traditions sur le chantier. Test des formes anciennes et nouvelles aux critères des principes de la révélation. C'est ce qui est souvent impulsé par les nouvelles générations. C'est ce qui est prévu dans l'Ancien Testament, nous l'avons évoqué il n'y a pas longtemps, lorsque ton fils ou ta fille te demandera « Que signifient ces pierres ?» Tu diras « Non pas c'est comme ça », non pas parce qu'on a toujours fait comme ça, mais tu expliqueras le chemin par lequel Dieu t'a conduit. Richesse de la vie, de la nouveauté et de l'invention. La transmission des valeurs et des principes, d'un savoir et d'un faire, d'idées et de formes coutumières, c'est la stabilisation et la continuité de tout groupe social et de l'Église aussi. L'ouverture et l'évolution qu'impulse la vie, les nouvelles formes, le renouvellement, la vitalité qui se manifeste, c'est marcher, avancer, grandir, faire preuve de ce dynamisme-là. C'est la vitalité de tout groupe et de l'Église. Oui, pour l'Église, c'est sous cette double perspective qu'elle est appelée à considérer la tradition, c'est-à-dire la transmission du fondement et la transmission de la foi. Sachant que, pour l'évaluation des traditions et des changements, des coutumes anciennes et des nouveautés, il subsistera toujours des différences entre nous, par le côté subjectif des critères d'appréciation et des goûts différents des uns et des autres, et de l'histoire et du point où ils sont parvenus. Au point où nous sommes parvenus, marchons ensemble d'un même pas, dit l'apôtre. Apprendre à apprécier les choses nouvelles et les choses anciennes. Apprendre à distinguer l'important du moins important, ce qui touche au principe et ce qui touche au goût. Je me permets ici de rappeler une expression dont j'ignore réellement la paternité parce que plusieurs la revendiquent, mais vous la connaissez certainement. Comment vivre et marcher ensemble, alors qu'on peut être différent sur bien des choses? Pour le fondamental, unité, ce qui ne veut pas dire uniformité, unité. Pour le secondaire, liberté, en tout, charité. Vous connaissiez ça? Alors, la formule est vraie, et j'y crois profondément. Maintenant, une fois qu'on l'a prononcée et qu'on essaie de l'appliquer, on n'a pas résolu tous les problèmes. Parce que, par exemple, entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire, là aussi, il y aura des différences, mais bon. Il faut bien quand même que je termine, donc je ne vais pas développer davantage ce côté-là. Je voudrais terminer en lisant le très beau texte que nous avons dans la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 2. Colossiens 2, à partir du verset 6. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée et débordant de reconnaissance. Veillez à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse duperie, à l'enseigne de la tradition des hommes, des éléments du monde, et non plus du Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous vous trouvez pleinement comblé en celui qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien et qui vous a dépouillé du corps charnel, telle est la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui dans le baptême, avec lui encore, vous avez été ressuscité puisque vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a donné la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître. Il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans son cortège triomphal de la croix. Dès lors, que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture ou de boisson, à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir. La réalité relève du Christ. Ne vous laissez pas frustrer de la victoire par des gens qui se complaisent dans une dévotion, dans un culte des anges. Ils se plongent dans leur vision et leur intelligence charnelle les gonfle de chimères. Ils ne tiennent pas à la tête de qui le corps tout entier, pourvu et bien uni, grâce aux articulations et ligaments, tire la croissance que Dieu lui donne. La croissance en Jésus-Christ. Voilà l'idéal. Et voilà aussi une autre manière de nous souvenir que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Le fondement de notre foi, la vie de notre foi, la croissance de notre vie spirituelle et de notre vie tout court, dans le Christ, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est sur la base de ces réalités rappelées, de ce qui vient de nous être dit ici concernant ce que Christ a fait pour nous, que nous voulons aussi nous préparer à partager le pain et le vin de la Sainte Cène. Nous allons nous y préparer en chantant le cantique « Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin ». Nous chantons les quatre strophes de ce cantique.